France Culture, il est midi 31. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Grenades ou tirs de lanceurs de balles de défense. Les circonstances dans lesquelles Jérôme Rodriguez a été blessé à l'œil samedi soir lors de l'acte 11 de la mobilisation des Gilets jaunes restent floues. Hier soir, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur a affirmé qu'aucun élément ne permettait de dire que le militant avait été touché par un tir de LBD. La victime assure de son côté avoir été visée délibérément.
Il est bon que les Français débattent de la limitation contestée de la vitesse à 80 km/h sur certaines routes, mais il serait fou de revoir l'ambition de la sécurité routière à la baisse.
Une déclaration signée ce matin, Édouard Philippe, le Premier ministre estime que les chiffres de la mortalité routière en 2018 en baissent, les meilleurs depuis que l'accidentologie est mesurée en France, prouve la pertinence de cette mesure, qu'Emmanuel Macron s'est toutefois déclaré prêt à assouplir. Et puis pour évoquer toute cette actualité française, invité du journal dans une dizaine de minutes, Roland Cayrol, politologue, auteur d'un nouvel ouvrage à paraître mercredi intitulé « Le président sur la corde raide, les enjeux du macronisme ».
Au deuxième jour de sa visite en Égypte, le président français doit rencontrer aujourd'hui son homologue Al-Sissi.
L'objectif pour Emmanuel Macron, la signature de contrats à hauteur de centaines de millions d'euros, tout en assurant vouloir parler plus ouvertement de la situation des droits humains. Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido a appelé à deux nouvelles manifestations cette semaine pour faire basculer l'armée, mais aussi accompagner l'ultimatum européen en faveur d'élections libres. Et puis il est l'un des plus célèbres avocats chinois spécialisés dans la défense des droits de l'homme. Wang Tuanzhang vient d'être condamné à 4 ans et demi de prison pour subversion, devenant ainsi une victime de plus de l'appareil répressif chinois contre les avocats. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Une critique de la bourgeoisie et de ses réflexes de classe par un essayiste, c'est François Bégodeau qui nous rejoindra à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Ils espéraient être au moins 10 000, espoirs finalement comblés, puisque selon les chiffres de la police, 10 500 foulards rouges, très exactement, ont défilé hier dans les rues de Paris, drapeau tricolore à la main, vêtu d'écharpes et de bonnets vermillons. Ces marcheurs, à qui le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, avait accordé toute sa sympathie, entendaient par là défendre la démocratie et les institutions face aux violences qui, depuis plus de deux mois maintenant, émaillent la crise des Gilets jaunes. Des violences qui se sont d'ailleurs répétées la veille, puisque le 11e samedi consécutif de mobilisation aura notamment été marqué par la blessure à l'œil d'une figure du mouvement de contestation, Jérôme Rodriguez. De quoi relancer aussitôt le débat sur l'usage par les forces de l'ordre de ces armes dites intermédiaires. Mais pas seulement, puisqu'au-delà de la controverse, cette scène filmée par la victime elle-même et largement reprise tout le week-end sur les réseaux sociaux aura également et rapidement pris une tournure politique. Il faut dire qu'à elle seule, elle est devenue le symbole de ce que redoutaient les autorités depuis que les face-à-face entre manifestants et policiers ont débuté. Quoi qu'il en soit, dès hier, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a réclamé ni plus ni moins que la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Alors hier, au lendemain de nouveaux heurts et notamment de cette grave blessure, donc le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a pris la défense des forces de l'ordre. De son côté, le secrétaire d'État à l'Intérieur a confirmé hier soir l'utilisation d'une grenade de désencerclement. En revanche, Laurent Nunez déclare n'avoir aucun élément lui permettant de dire que M. Rodriguez aurait été touché par un tir de LBD, les fameux lanceurs de balles de défense. Où en est-on de l'enquête, Antoine?
Eh bien, l'IGPN a été saisie. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour rechercher les causes des blessures. À ce stade, elle ne présage pas du type d'arme utilisée, ni même d'une implication des forces de l'ordre. Il y a tout de même deux hypothèses principales qui s'affrontent ce midi. Une blessure causée par une grenade de désencerclement. Elles peuvent projeter des petits morceaux de plastique qui peuvent toucher des manifestants, ou alors une blessure due à une balle de LBD tirée dans la foulée du jet d'une grenade de désencerclement. La première hypothèse arrange les forces de l'ordre. Si Jérôme Rodriguez a été blessé par un éclat de grenade, cela signifie qu'il n'a peut-être pas été visé. Cela veut dire aussi que le tir a pu se faire dans les règles. La grenade a été jetée au sol et a roulé vers ses pieds. Son visage n'a pas été ciblé, c'est un éclat qui l'a blessé. En revanche, la deuxième hypothèse est beaucoup plus problématique. Un tir de LBD dans l'œil signifierait que l'arme a été mal utilisée. D'abord contre quelqu'un qui ne représentait pas une menace pour les forces de l'ordre. Les vidéos en attestent. Jérôme Rodriguez ne commettait pas de violence au moment où il a été blessé. Il ne menaçait pas les forces de l'ordre. Il se contentait de filmer la manifestation. Ensuite, il a été atteint au visage. Or, le tireur de LBD doit viser les membres supérieurs ou le torse, jamais la tête. Si Jérôme Rodriguez a été victime d'un tir de LBD, cela donnera de l'eau au moulin aux arguments des anti-LBD, une arme dangereuse, imprécise et qui, malgré toutes les précautions prises, continue à mutiler des manifestants.
Merci Antoine Marette. Aller-retour ou demi-tour? Ce matin, nombreux sont ceux à s'interroger encore sur la nature du déplacement aujourd'hui à Coubeur, en Seine-et-Marne, d'Edouard Philippe, à l'endroit même où un certain 11 décembre 2017, il s'était dit favorable à titre personnel à l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur certaines routes secondaires à double sens. 6 mois après l'entrée en vigueur de cette mesure, le Premier ministre y a annoncé ce matin de bons résultats pour la mortalité routière l'an dernier, une manière de justifier donc la décision du gouvernement, en dépit non seulement de l'affront d'une partie des automobilistes, mais aussi de l'indignation de certains élus, en particulier en zone rurale, voire de certains ministres. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors évidemment, au vu de ces bons résultats, ça va être compliqué de nous dire que les 80 km/h ne marchent pas, glissons du côté de Matignon. Et pourtant, en pleine crise des gilets jaunes, eh bien la limitation de vitesse à 80 km/h reste menacée, Stéphane.
Oui, parce que d'une part, on sait que c'est une des mesures qui a exacerbé la colère d'une partie de la population et qui a participé au déclenchement du mouvement des gilets jaunes. Et puis parce que le président de la République semble tergiverser sur cette question, il souffle le chaud et le froid. Laurent Wauquiez a fait savoir ce week-end qu'Emmanuel Macron lui aurait dit lors d'un entretien en tête-à-tête jeudi dernier que les 80 km/h étaient une connerie. Or, depuis le Caire, en Égypte, où il est en déplacement, le chef de l'État a qualifié cette mesure de courageuse. Et du coup, on a bien du mal à savoir sur quelle roue danser ce midi et à quelle vitesse les Français pourront rouler. Concernant le Premier ministre, Édouard Philippe, en revanche, il n'y a pas d'ambiguïté. Il a présenté les chiffres de la sécurité routière ce matin et il a qualifié le résultat d'historique. 3259 morts sur les routes de France l'an dernier, c'est le nombre le plus faible jamais enregistré. Et si l'on prend en compte uniquement les routes secondaires abaissées à 80 km/h depuis 6 mois, on s'aperçoit que 116 vies ont été épargnées, a expliqué Édouard Philippe. Dès lors, on peut discuter, mais pas renoncer à l'ambition qui a été fixée.
Au cours du mois de février, je ferai connaître, département par département, les chiffres du réseau sur lequel la décision d'abaisser à 80 km/h la limitation de vitesse s'applique. Et que chaque président de conseil départemental pourra connaître les chiffres dans son département, pourra réagir et faire part de ses propositions. Mais je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que quand nous avons pris cette décision, avec le président de la République, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons pris une décision que nous savions impopulaire et qui s'est révélée impopulaire, mais qui en revanche produit des résultats. Je suis fier aujourd'hui, nous sommes fiers des résultats qui sont présentés, fiers de ces vies épargnées, nous sommes fiers d'avoir pris nos responsabilités, et je pense qu'après le débat, chacun devra prendre les siennes en les assumant devant les Français.
Ce que nous dit là Édouard Philippe est que l'abaissement à 80 à l'heure est une bonne chose et qu'elle donne des résultats. Et il souhaite bien du courage à ceux qui voudraient revenir en arrière, le président de la République comme les présidents de département, et qui devront assumer une potentielle hausse de la mortalité. On a donc là un Premier ministre qui reste ferme, droit dans ses bottes, et qui dit à Emmanuel Macron qu'il ne souffrira pas et n'endossera pas la responsabilité d'un retour en arrière.
Alors, se dirige-t-on vers une remise en cause? On a bien compris, difficile à dire. Il y aura sans doute, a priori, des aménagements. C'est d'ailleurs en partie le sens du message délivré hier depuis le Caire par Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui a déclaré, je cite, qu'il tirerait des conséquences profondes de la colère exprimée depuis le début du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, le président de la République a déclaré qu'il prenait très au sérieux le moment que nous vivons, qu'il ne sait pas ce que ça donnera, mais qu'il en tirera les conséquences profondes, c'est le mot. Et il a précisé qu'il ne s'agira pas de prendre des décisions sur telle ou telle mesure technique, mais qu'il voyait là le grand débat qu'il a lancé et ce qui devra en découler comme une nouvelle étape de la transformation du pays. Lorsque les colères se coagulent et deviennent un prétexte à des violences, on fragilise la démocratie, a-t-il encore constaté. L'objectif du grand débat est donc de donner un cadre aux colères et aux contestations. Emmanuel Macron promet donc aux Français une vraie prise en compte de ce sur quoi tout ça débouchera. Mais comment? Sous quelle forme? À ce stade, il reste encore beaucoup de questions. On est encore dans le flou. Et quand c'est flou, comme dirait l'autre,
il y a un loup. Et pour continuer d'évoquer donc toute cette actualité, invité de ce journal, Roland Cayrol, politologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF et auteur d'un nouvel ouvrage à paraître mercredi intitulé « Le président sur la corde raide, les enjeux du macronisme ». Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et avec moi pour vous interroger, Rosalie Lafarge du service politique. Bonjour Rosalie.
Bonjour.
Première question monsieur Cayrol, outre les gilets jaunes donc et les foulards rouges ce week-end, Près de 80 000 personnes ont également défilé à travers toute la France contre l'inaction des États face au réchauffement climatique, avec un slogan donc devenu un leitmotiv: changeons le système, pas le climat. Comment interprétez-vous ce désir, manifestement de plus en plus partagé, de descendre dans la rue pour faire entendre sa voix, quels que soient d'ailleurs les motifs de contestation?
C'est vrai que d'abord on est un vieux pays qui aime bien les manifs, qui aime bien la descente dans la rue. On est ceux qui en font le plus. Il y a une tradition, et je crois que dès l'instant que certains font revivre cette tradition, ça marche. Regardez les sondages qui sont faits sur les grands mouvements sociaux et même sur les petits. Depuis 1995, on demande pour chaque mouvement social à l'opinion publique si elle les soutient ou si elle a de la sympathie pour eux. Et bien, si on prend l'ensemble des 200 mouvements qui ont été testés depuis, la moyenne de l'approbation des Français, c'est 65%. La moyenne. Et alors, chaque fois, on dit, mais c'est un chiffre extraordinaire. C'est toujours comme ça. À part la toute dernière de la SNCF, qui était à 51-52, quand même, toutes les autres sont au-dessus de 60. Ça veut dire qu'il y a dans ce pays une idée. On avait parlé jadis de la grève par procuration. Il y a aussi la manif par procuration. Il y a aussi les mouvements par procuration. Les gens, même si eux, ils se bougent pas, ils ont le sentiment que c'est bien que d'autres le fassent. Il faut défendre son beefsteak, il faut descendre pour les causes que l'on croit. Ils ont bien raison.
Une question de Rosalie Lafarge.
Le président sur la corde raide, c'est le titre de votre livre. Vous décrivez dans ce livre le numéro d'équilibriste que Emmanuel Macron est en train de mener. Il peut tomber de cette corde?
C'est le problème de la corde raide, c'est que c'est pas possible de tomber, et même on en voit souvent des équilibristes qui tombent, d'autant que lui, il a même pas un balancier entre les mains pour essayer de se maintenir. Oui, il peut tomber, à vrai dire, il peut tomber de deux côtés. Soit il continue son chemin sur cette corde raide, difficile, qui essaye de mêler les contraires et de passer entre les gouttes, soit il tombe d'un côté ou de l'autre. De l'un, ça pourrait être le retour à une gestion technocratique, de centre-droit, peu compréhensive, des demandes pressantes des Français, malgré ce qu'il a dit pendant la crise des Gilets jaunes. L'autre, ce serait de faire abstraction de son programme, puisque maintenant, on serait entré dans une ère du Macron 2, dans lequel on va essayer de rendre satisfaction aux gens. Et je crois que c'est aussi dangereux pour lui, et pour nous, si on a un président qui abandonne la politique de réforme sur laquelle il a été élu.
Mais on le voit, ce numéro d'équilibriste sur les 80 km/h, on en parlait il y a un instant, avec les chiffres du jour, est-ce qu'on peut reculer sur cette mesure ?
On peut reculer tout en avançant. Vous savez, c'est ça que font souvent les équilibristes sur la corde raide. Quand moi j'étais dans mon Lot quand on a appris la mesure, j'ai fait une émission de télévision le lendemain ici à Paris, et j'essayais d'expliquer le problème. C'est pas d'abord les 80 à l'heure. Le problème, c'est une décision prise à Paris dans un ministère qui est valable pour toutes les routes. Et par exemple chez nous dans le Lot, il y a des routes dans lesquelles il est même pas question d'arriver à 70. On ne peut pas arriver si haut. Et d'autres pour lesquels c'est un peu absurde de descendre parce qu'elles sont très sûres. Donc c'est absurde qu'on ait des gens à Paris, dans un seul ministère, qui décident, voilà, dans toute la France, ça sera comme ça. Et je crois que la grogne des Français, et notamment des Français ruraux, elle est d'abord là-dessus. Ils nous imposent des choses sans savoir ce que de conditions réelles de circulation sur nos routes. Donc on peut évidemment garder la mesure sans la garder partout et en permettant au niveau local de prendre la décision.
Donc accepter des aménagements, finalement, est-ce que c'est pour vous aller vers ce nécessaire partage démocratique sur lequel vous insistez dans votre livre et qu'Emmanuel Macron a lui-même prôné? Est-ce que c'est pour vous le sens du grand débat national qu'il est en train de mener?
Alors ça n'est qu'un point de départ, mais ce que je pense, en tout cas vous m'aurez bien lu ce que j'espère, c'est qu'en effet ça n'est qu'un petit début, parce que si vous vous souvenez de la campagne présidentielle de Macron, il avait fortement insisté sur ce côté participatif de la campagne, c'est notre projet, il avait hurlé dans les micros, et puis c'était devenu son projet, celui de Jupiter, et on avait oublié les citoyens. Donc je crois que c'est extrêmement important de revenir à cet esprit de départ du macronisme. Il s'agit pas simplement de choses de forme, comme le disent parfois certains de vos confrères. Écouter mieux, pas faire de gaffe en parlant, être plus à portée des gens, c'est bien plus important.
Mais justement, vous parlez de c'est notre projet. Vous dites dans votre livre, mais c'est quoi ce projet? On va où?
Alors il y a ça aussi. Il y a pas seulement changer de ton, entraîner une société, c'est être avec la société, avec les corps intermédiaires aussi, les syndicats, les associations, etc. Et c'est lui indiquer où on va à 5 ou 10 ans. Je crois que c'est fini les anciennes idéologies où on pouvait promettre de changer la vie, de changer le monde. Non, on attend de savoir à quoi peut ressembler cette société dans les 5-10 ans si on suit les mesures, et par exemple celle de Macron. Et je trouve que là-dessus, il a pas assez, disons, fait d'idéologie.
Il faut un projet expliqué. Plus clair, finalement.
Voilà, un projet plus clair, macronien, plus politique, qui nous explique vers où ça va. Pour le moment, les différentes réformes, elles ont été plutôt appréciées de l'opinion publique. Qu'est-ce que ça change vraiment à la société française? Qu'est-ce que ça change à leur vie? Les gens n'ont pas le sentiment d'être directement concernés, et on a besoin que la politique, pour y croire un peu plus, elle nous indique cela.
En quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, est-ce que pour vous le projet du Parti Les Républicains est plus clair quand on voit que a priori va être nommé tête de liste pour les européennes le conservateur François-Xavier Bellamy?
Alors non, c'est d'une certaine façon la chance conjoncturelle de Macron. Vous savez, c'est la fameuse phrase attribuée à Talleyrand, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Les électeurs, dans un vote, on vote toujours entre des candidats. Macron a perdu un sacré plume dans l'opinion, même s'il s'en refait un tout petit peu en ce moment, mais les autres sont pas à la hauteur. Les oppositions ont été laminées par les élections de 2017, et on voit bien qu'ils n'arrivent pas à articuler ni une idéologie, ni un projet politique, ni même des alliances électorales, et encore moins un leader. Donc ça peut être une des chances. Et de temps en temps, il faut que le leader ait de la chance aussi.
Merci Roland Quayrol, politologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle par ailleurs le titre de votre ouvrage, apparaître donc mercredi, intitulé « Le président sur la corde raide, les enjeux du macronisme ». Et merci également à Rosalie Lafarge. Nos confrères de France Bleu Isère, privés d'antenne ce lundi, les locaux de la radio à Grenoble ont été partiellement détruits cette nuit par un incendie d'origine criminelle qui n'a pas fait de blessés. Aucune revendication n'a été trouvée sur place ni reçue pour l'instant. Je vous propose d'écouter le témoignage de notre confrère Nicolas Crozel.
La porte a été fracturée, c'est d'ailleurs ce qui a déclenché l'alarme et permis à la société de télésurveillance de prévenir assez rapidement les secours. Il y a eu deux départs de feu à l'intérieur du rez-de-chaussée de notre station, l'un côté rédaction, l'autre côté accueil du public. Le feu a été rapidement éteint. Après, là, depuis 4h30, moi je suis arrivé à 4h30 ce matin, c'est quand même la désolation parce que ça sent la fumée. On regarde notre outil de travail qui est totalement ravagé, dévasté. Il y a même le bureau du rédacteur en chef qui a été sorti sur le trottoir et qui est complètement fondu. Et puis on se demande pourquoi. On pense forcément au climat délétère qui règne actuellement contre les journalistes, mais il est bien trop tôt pour pouvoir affirmer que ça a un lien. On n'en sait rien. On n'avait pas reçu de menaces particulières ici à France Bleu Isère. Donc on est aussi tout simplement abasourdi, choqué, sonné. Je fais pas ce métier pour faire ça. Franchement, on a pas beaucoup de mots qui nous viennent et on se regarde un peu tous hébétés, là, les salariés de la journée qui arrivent petit à petit et qui viennent constater avec nous et le lever du jour l'ampleur des dégâts.
Étape décisive pour un site industriel emblématique de Gironde aux 870 emplois accrochés à l'espoir d'une reprise. La direction du travail doit annoncer aujourd'hui si elle valide ou non le plan de sauvetage de l'emploi de Ford pour son usine de Blanquefort. Le constructeur américain qui, il y a près d'un an, avait annoncé sa volonté de se désengager de l'usine avait refusé en décembre dernier une offre de reprise d'une société franco-belge pourtant appuyée par l'État et les syndicats. C'est l'un des rares déplacements à l'étranger qu'effectue en ce début d'année le président Emmanuel Macron, davantage concentré depuis plus de deux mois sur la crise sociale des Gilets jaunes. Au deuxième jour de sa visite en Égypte, en vue de resserrer les liens à la fois économiques, culturels et stratégiques entre les deux pays, le chef de l'État français doit être accueilli aujourd'hui au palais de son homologue Al-Sissi pour un entretien en tête-à-tête et la signature d'une trentaine d'accords commerciaux. Autant de contrats qui se heurtent, bien entendu, aux critiques formulées par les ONG, lesquelles dénoncent régulièrement l'implacable répression exercée selon elles par le pouvoir égyptien contre toute forme d'opposition. Alors, lorsqu'il avait reçu le président égyptien à Paris, c'était en octobre 2017, Emmanuel Macron s'était refusé à donner des leçons à son homologue sur la question des droits de l'homme, provoquant l'indignation des associations. Cette fois-ci, le chef de l'État a promis qu'il parlerait, je cite, plus ouvertement de cette question sensible au cours de sa visite. C'est une correspondance au Caire signée de notre envoyé spécial Bertrand Galichet.
Emmanuel Macron consacre l'essentiel de cette journée à des entretiens avec son homologue Al-Sisi au sein de l'immense palais présidentiel qui sert de résidence au numéro 1 égyptien dans le quartier d'Héliopolis. Les deux dirigeants discutent de sujets qui rapprochent, accords commerciaux, partenariats géopolitiques et en matière de défense. Emmanuel Macron doit aussi évoquer les dossiers litigieux, à commencer par les droits de l'homme. Le président français a promis hier de parler plus ouvertement de la répression qui atteint, selon les ONG, un niveau alarmant. Les défenseurs des libertés attendent beaucoup de cette visite, même si les résultats pourraient ne pas être immédiats. Sur le plan commercial, les accords porteraient sur plusieurs centaines de millions d'euros, mais ne concernent pas cette fois l'industrie de défense. Il s'agit notamment de la maintenance d'une nouvelle ligne de métro, de la contribution française au grand musée égyptien en construction au pied des pyramides, de la rénovation du musée d'archéologie et de l'implantation de parcs d'éoliennes. La nouvelle capitale administrative de l'Égypte, en construction à une soixantaine de kilomètres du Caire, intéresse aussi la France. Dans un pays de 100 millions d'habitants, qui a connu en 2016 une crise économique et financière, les demandes sont immenses, mais les capacités budgétaires restent contraintes.
Bertrand Galichet depuis le Caire avec Alexandre Abergel pour les moyens techniques. De la difficulté de jouer les équilibristes sur l'échiquier international pour préserver les intérêts de son pays tout en défendant ses valeurs. Autre exemple au Venezuela cette fois-ci où la liste des soutiens internationaux au nouveau président autoproclamé ne cesse de s'allonger. Après Israël, c'est l'Australie qui hier a annoncé reconnaître Juan Guaido comme président par intérim. Du coup, encouragé par tous ses soutiens, ce dernier a appelé à de nouvelles manifestations cette semaine. L'objectif, fissurer d'une part la loyauté de l'armée, principal soutien du président élu, Nicolas Maduro, mais aussi accompagner d'autre part l'ultimatum européen, notamment en faveur d'élections libres. Quoi qu'il en soit, et à chaque jour qui passe, Olivier Poujade, on le voit, chacun cherche à présent à se positionner sur l'échiquier international, soit pour mettre en avant une politique étrangère qui sert ses propres intérêts, soit pour faire passer un message diplomatique à valeur de symbole.
Face à la diplomatie intrusive des États-Unis, une grande partie des membres de l'Union européenne est tombée d'accord ce week-end pour adopter une ligne offensive, mais respectueuse du droit international et destinée surtout à éviter le bain de sang. La situation sécuritaire reste préoccupante. Il s'agit avant tout de protéger le million de ressortissants de l'UE installés au Venezuela, tout en incitant Nicolas Maduro à convoquer de nouvelles élections. L'ultimatum a été fixé au 3 février par 6 pays, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Une méthode douce pour enclencher un processus de transition démocratique et forcer la main de Nicolas Maduro, qui rejette pour l'instant cette feuille de route. Le leader chaviste sait qu'il peut encore compter sur les soutiens de deux poids lourds, la Chine, qui détient la plus grande partie des 20 milliards de dollars de dettes accumulées par le pays, et la Russie, dont le soutien historique est conditionné à la préemption de nombreuses zones de production pétrolière sur le territoire vénézuélien. Il y a enfin la quatrième voie, celle du Mexique, appuyée par l'Uruguay. André Manuel López Obrador a offert ce week-end ses services pour organiser une médiation et accueillir les deux leaders, Maduro et Guaido, l'occasion pour lui de renouer avec la doctrine Estrada, basée sur le principe de non-ingérence et d'autodétermination, une règle diplomatique historique au Mexique, abandonnée depuis 2000 par ses prédécesseurs. AMLO se saisit donc de la crise vénézuélienne pour la remettre au goût du jour.
En Chine, il était l'un des plus célèbres avocats chinois spécialisés dans la défense des droits de l'homme et en particulier les droits des paysans, mais aussi les camps de travail ou bien encore les dissidents. Hier, Wang Tuanzhang a été condamné à 4 ans et demi de prison pour subversion, devenant ainsi une victime de plus de l'appareil répressif chinois contre les avocats. Les précisions à Pékin de Dominique André.
Wang Quanzhang a été jugé à huis clos par le deuxième tribunal populaire intermédiaire de Tianjin sur la côte nord-est de la Chine. Son épouse n'a pas pu assister au procès qui s'est déroulé fin décembre, mais le verdict n'est connu qu'aujourd'hui. Selon le tribunal, l'affaire comportait des secrets d'État. Arrêté en juillet 2015 lors d'une rafle contre 200 avocats chinois, il avait ensuite disparu pendant 3 années. On ne savait pas s'il était vivant ou mort. Son épouse Li Wanzhou, aidée par les défenseurs des droits de l'homme et la chancelière Angela Merkel, qui l'a rencontré personnellement lors d'un voyage à Pékin, n'ont cessé depuis de demander des nouvelles aux autorités chinoises. Détenu au secret, Maître Wang a été reconnu coupable de subversion de l'État. Condamné à 4 ans et demi de prison, il est déchu aussi de ses droits politiques pendant 5 ans. L'avocat est accusé d'avoir travaillé avec un défenseur suédois des droits de l'homme expulsé de Chine en 2016 et d'avoir fait des déclarations sur les sectes comme le Falun Gong interdit en Chine, qu'il a défendu. Amnesty International parle de grave injustice. Pour l'organisation Human Rights Watch, cette condamnation fait partie de la répression actuelle contre les avocats des droits de l'homme.
On termine avec un mot rapide du temps. Globalement perturbé et pluvieux, attention par ailleurs au risque de chute de neige dans les Pyrénées, dont 4 départements passeront en vigilance orange. Les températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 3 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.